Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite sur RTL, on piste des prédateurs. Bonjour, Baptiste Morisot.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes écrivain, vous êtes maître de conférences en philosophie et donc pisteur. Faites-nous une petite liste comme ça pour démarrer. Quels animaux avez-vous déjà chercher, pister, tracer?
J'ai commencé beaucoup avec les loups, les ours m'ont intéressé, je suis allé au Kyrgyzstan pour suivre la panthère des neiges, et puis alors ensuite tout le monde, les bouquetins, les mouflons, les chamois, les renards, les martres, tout le monde.
Vous êtes maître de conférence en philosophie, qu'est-ce qu'il y a de philosophique dans le fait de pister des animaux?
Eh bien ça dépend de quel problème philosophique, sur quels problèmes philosophiques vous travaillez. Moi je travaille sur les questions, je dirais, écologiques, sur les questions environnementales, ouais. Et je travaille sur la manière dont notre civilisation a perdu sa sensibilité au vivant. Et donc, vous comprenez tout de suite que le pistage, c'est une manière d'essayer de reconstruire des chemins de sensibilité à l'égard des vivants.
Vous ne chassez pas des animaux, vous allez les observer. Oui, c'est ça, votre job.
Vous devez me demander ça. Non,
parce
bien
que pister,
sûr,
ça peut être un peu brusque comme terme. Ouais.
Non, c'est complètement désarticulé de la chasse. Moi, je ne chasse pas du tout, ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse dans le fait de pister, c'est au contraire de comprendre comment ils vivent pour mieux cohabiter avec eux.
On vous emmène sur la piste des grands prédateurs, l'ours, l'aigle, la panthère. Et on commence dans un instant avec le loup. Restez avec nous sur RTL.
Sur la période janvier-mars, vous avez une nouvelle fois fait de RTL la première radio de France.
Nous avons un nouveau sondage record ce matin pour RTL qui reste plus que jamais la première radio de France.
Et oui, vous êtes chaque jour plus de 6 600 000 à nous écouter.
Grâce à vous, RTL est la radio qui rassemble chaque jour le plus grand nombre d'auditeurs. C'est aussi la radio écoutée le plus longtemps.
RTL, première radio de France et meilleure audience depuis 10 ans.
Dans le parc de Yellowstone, le loup est au sommet de la chaîne alimentaire.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
10 meutes se partagent un vaste territoire. Un couple dominant dirige chacune d'entre elles. Un couple alpha. Un loup peut engloutir jusqu'à 10 kilos de viande en un repas.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
La curiosité part en expédition, vous emmène sur la piste animale et d'abord sur la piste des loups. On est avec l'écrivain Baptiste Morisot. On vient d'entendre un extrait de documentaire sur les loups de ce parc de Yellowstone aux États-Unis. Vous y êtes allé dans cet ouest américain mythique?
Oui, j'ai passé un peu de temps là-bas, notamment à pister et à essayer d'observer les loups, qui sont assez faciles à observer là-bas, c'est quand même une grande chance. Et d'ailleurs, il s'est passé des choses assez intrigantes. C'est la première fois là-bas que j'ai observé des relations entre des loups, des coyotes et des grizzlies qui partageaient une carcasse. Et ce qui était fascinant, c'est qu'ils la partageaient de manière en concorde, en fait, sans conflit. Et je me suis dit, s'il est possible pour eux de faire ça de manière pacifiée, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas, nous, à vivre de manière pacifier avec eux.
Parce que c'est vrai, là, on parle de grands prédateurs, et forcément, même dans les extraits, etc., il y a les mots de peur, il y a la frayeur qui vient, etc. C'est contre ça que vous cherchez
en grande partie, aussi. Ouais, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet imaginaire fantasmatique qu'on a construit et qui en fait l'archétype dans lequel on projette tout ce qu'on trouve atroce dans l'humain, la férocité, le sadisme.
En fait, ce ne sont pas nos prédateurs, ces animaux-là. C'est ce qu'on croit entendre en disant les grands prédateurs, mais c'est pas nous qui s'attaquent.
Non. Ils peuvent nous attaquer dans des conditions bien particulières, mais c'est pas nos prédateurs au sens écologique du terme. On ne constitue pas leur nourriture, pas du tout. C'est d'ailleurs plutôt l'inverse, en tout cas du point de vue de la mise à mort. C'est nous qui sommes les spécialistes de la question. Non, c'est des formes de vie qui ne sont pas dangereuses si on les respecte et si on comprend comment cohabiter avec.
Alors pour trouver des loups en France et dans le Var que vous êtes allé, Baptiste Morisot, vous pouvez nous décrire les lieux. On est où avec vous là?
Dans le Var, j'ai beaucoup pisté autour du camp de Canjouers. C'est un endroit qui assez beau et en même temps intriguant parce que c'est un camp militaire duquel les populations humaines ont été évacuées en fait, pour permettre l'artillerie, l'usage de l'artillerie, mais par contre le pastoralisme est resté, donc il y a encore des troupeaux et je me suis retrouvé là-bas à quelques nuits à travailler avec un berger, à dormir au troupeau pour essayer d'empêcher le loup d'accéder aux brebis.
Il a combien de brebis et combien de chiens pour protéger son troupeau?
Cette nuit-là, c'était un peu compliqué, les troupeaux étaient séparés, mais il y avait le troupeau sur lequel j'étais, il y avait 700 bêtes et il y avait une dizaine de chiens.
Alors, ce sont les chiens qui alertent sur la présence d'un loup, ou plusieurs loups d'ailleurs?
Les chiens de protection, ils sont assez extraordinaires de ce point de vue-là. C'est des animaux qui sont un peu compliqués parce qu'ils sont semi-sauvages au sens où on ne contrôle pas vraiment leur comportement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont aussi efficaces contre les loups, parce que c'est comme Hercule, il faut qu'on ait un héros un peu sauvage pour pouvoir mettre à distance ceux qui attaquent. Et c'est eux qui se mettent à hurler quand le loup attaque et qui essaient de le faire fuir.
Vous avez pu croiser le regard d'un loup?
Et donc oui, alors cette nuit-là, en effet... alors que je descends sur le troupeau en pleine nuit parce que j'entends les chiens hurler, je tombe face à face avec un loup qui était en train de remonter du troupeau.
Qu'est-ce qui se passe dans ce face à face? Lequel des deux a peur? Est-ce qu'il est menaçant? Est-ce qu'il montre les crocs ou c'est non. vous qui les montrez?
Non, ni l'un ni l'autre. Aucun n'est menaçant. Justement, tous les mythes de la rencontre viriliste, un peu bête, comme ouais. quoi ce serait une épreuve de bravoure.
On n'est pas fini dans son ventre, dans le loup.
Je suis là et ça va plutôt bien. Non, ce qui se passe, c'est plutôt tout autre chose. C'est qu'il me regarde dans les yeux. C'est ça qui me frappe. Et ça m'évoque ce vers de René Char qui dit brusquement, tu te souviens que tu as un visage. C'est marrant que ce soit un animal sauvage qui nous rappelle.
Mais il essaye de vous comprendre, c'est ça, de voir qui vous êtes, d'évaluer votre dangerosité.
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il essaie de comprendre ce que je fais là, déjà en pleine nuit, en plein milieu d'une pâture, et de savoir ce que je vais faire. Et pour ça, il me regarde dans les yeux, il me regarde au visage, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière mes yeux qui révèle un peu mes intentions.
C'est pour ça que vous dites il me regarde comme un égal,
ouais, c'est ça.
Ce loup.
Je pense Pourquoi que c'est en grande partie pour ça que j'ai ce sentiment un peu bizarre que c'est une rencontre d'égal à égal. Et puis il y a un autre aspect qui n'est pas anodin, c'est que les loups sont des animaux qui nous ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de parallèles dans les comportements. Au Yellowstone, les biologistes observaient un père qui était un gros mâle alpha qui, à certains moments, allait se cacher dans un fourré parce qu'il en avait marre que ses louveteaux le harcèlent pour jouer avec lui.
On fait ça, nous, aux toilettes, avec le portable.
L'organisation familiale des loups. Effectivement, on a appris il y a quelques semaines dans cette émission sur RTL que quand on parle d'une meute, en fait, c'est une famille qu'on regarde et qu'on décrit. Sur la piste animale, c'est le titre du livre que vous publiez chez Actes Sud. On y croise aussi, grâce à vous, des panthères des neiges, rencontres rares, rencontres extraordinaires à venir sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Le léopard des neiges, c'est une de ces créatures mystérieuses et mythiques. Un félin si rarement observé qu'on connaît très peu de choses sur son mode de vie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il s'agit là d'une des espèces les plus rares au monde. Moins de 4 individus sur une centaine de kilomètres carrés. Il n'y a tout simplement pas assez à manger ici pour qu'ils y vivent plus nombreux.
On est bien entre curieux sur RTL.
Toujours avec Baptiste Morisot, pisteur, philosophe, vous nous emmenez sur la piste animale, sur la piste des grands prédateurs comme la panthère ou le léopard des neiges. Pourquoi c'est un animal si difficile et si rare à observer et comment vous avez fait pour vous en approcher ?
C'est un animal difficile à observer, c'est un animal qu'on appelle cryptique en éthologie, parce que c'est un grand félin solitaire qui vit dans des écosystèmes qui sont extrêmes pour nous. En l'occurrence, c'est des animaux de crête, et il vit sur des crêtes entre 4000 et 5000 mètres d'altitude, donc c'est pas évident d'y aller.
Ça ressemble à quoi un léopard des neiges?
Un léopard des neiges?
Alors le léopard des neiges, alors c'est un grand monsieur qui mesure 1m90.
Je cherche des prénoms en ce moment, c'est pour
assez
ça,
velu.
Masculin.
Donc le léopard des neiges.
Ça ressemble à une panthère qui a des adaptations remarquables à ces situations, à ces milieux extrêmes de froid, donc des fourrures, des petites oreilles qui permettent de thermoréguler, de ne pas perdre trop de chaleur, des ocelles de camouflage grise et des pattes massives qui font des raquettes pour marcher dans la neige.
Les ocelles, ce sont les petits dessins qu'on
absolument,
voit,
les taches
que l'on voit sur la panthère. Alors, donc vous nous le disiez, il faut affronter quand même des conditions et un environnement un peu hostile pour s'approcher de ces panthères des neiges. Vous êtes allé au Kirghizistan, là aussi, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'environnement, les lieux?
Donc le cadre, déjà, c'est de l'éco-volontariat avec une association qui est très intéressante qui s'appelle Objectif Science International. Là, c'est Panthera, c'est justement le travail sur les panthères. On fait du suivi animal pour relever les indices de présence. Et l'endroit, c'est la réserve de Narin, qui est une réserve intégrale, donc qui est interdite aux humains. C'est assez intrigant comme endroit. Hein. Il n'y a que des scientifiques qui y sont.
En altitude?
Ouais, entre 3000 et 5000 mètres. Mmh. Des grandes forêts, des pisséas, et puis les crêtes et les montagnes de très haute altitude.
Et donc, on le disait, on l'entendait dans la mise en onde de Sébastien Duduy, les panthères des neiges sont des animaux solitaires, peu nombreux, parce que difficile de trouver de la nourriture pour se reproduire. C'est le cas aussi au Kirghizistan?
Oui, je ne suis pas complètement convaincu, moi, par cette interprétation. Mmh. En fait, c'est plutôt, comment dire, les formes de vie animales ont chacune une sociabilité particulière. Quand vous êtes un grand prédateur, de fait, parfois, il vous faut des grands territoires. Et donc, ça fait qu'il y a assez peu d'individus au kilomètre carré.
Oui, bien sûr.
Et pour les prédateurs solitaires, c'est un peu comme ça que ça se passe. En l'occurrence, ces panthères-là, qui se nourrissent essentiellement de bouquetins, elles se croisent beaucoup. Elles s'envoient des messages sur des rochers.
C'est-à-dire ?
Et ben donc ça, c'est les marquages, les grands prédateurs qui ont conservé un odorat très puissant que nous, on a perdu, puisque nous, on appartient à la grande famille des primates. Comme longtemps, on a mangé des feuilles et des fruits, on n'avait pas besoin d'avoir un excellent odorat.
Ouais, donc on l'a pu travailler, on l'a oublié.
Oui, on l'a oublié. Ah, ouais. On l'a probablement eu en partie à une époque. Les grands prédateurs ont réussi à transformer une fonction qui est chez nous assez méprisée, qui est l'excrétion. En des outils de signalisation très nobles, très, très riches, qui sont un peu leur blason, leur drapeau, leur
marque leur territoire en quelque sorte.
Donc voilà. Ça veut dire que les panthères déposent des petites crottes comme ça un peu partout, qui sont des sources d'informations pour les autres panthères.
Voilà, les panthères, elles ont sous les joues, comme vos chats qui se frottent avec les joues, elles ont des glandes qui leur permettent de marquer avec des odeurs et qu'elles marient avec de l'urine plutôt. Elles ont des glandes qui sécrètent des odeurs et ça permet de traduire une série d'informations prodigieuse. L'identité, le sexe, la disponibilité sexuelle, le régime alimentaire, même l'état affectif de l'animal.
Ah oui, c'est sa carte d'identité. Et ouais. Vous qui êtes pisteur, Baptiste Morisot, comment vous avez fait pour... Parce que vous ne les interprétez pas, vous, forcément, ces signes de marquage, c'est pas votre langue. Non. Vous faites comment pour pister ces panthères des neiges
Donc ça, les marquages du point de vue de l'odeur, je n'y comprends rien, je n'y accède pas. Et pour le reste, ce qui m'intéresse, les indices qu'on apprend à lire, et notamment là, c'est les rangers kirghizes qui nous apprennent à lire, parce que les panthères, vous imaginez bien que, a priori, je suis parfaitement incompétent. Là, ce qui nous intéresse, nous, c'était notamment de trouver les highways, les autoroutes à panthères, en fait. Et pour ça, on va chercher les rochers qu'elles vont apprécier, qui sont particulièrement appétants pour elles. Et en fait, comme elles veulent que leur marquage dure le plus longtemps possible et que c'est des endroits qui sont battus d'intempéries, elles vont choisir des rochers qui sont en dévers. Et donc, et qui sont dans des endroits stratégiques. Et parfois, on finit par pouvoir deviner à quel endroit elles vont marquer. Et là, on arrive à trouver un poil de panthère au milieu d'une vallée immense.
Des traces de pattes aussi ?
Absolument, on voit les traces de pattes, on les suit, on les relève, et ça nous permet de suivre l'animal, de voir comment son corps s'est coulé dans différentes trajectoires.
Ce qui est, je crois que dans votre démarche de philosophe, il y a aussi le fait de comprendre ce qu'est son organisation de l'espace à l'animal sauvage, c'est ça ?
Mais si vous voulez, moi, le problème philosophique dont j'hérite, c'est qu'on est une civilisation qui ne sait plus cohabiter avec d'autres formes de vie. Et ma question, c'est que pour réapprendre à le faire, il faut comprendre comment les autres animaux font territoire, comment les autres vivants construisent leur espace et comment ils nous voient, comment on peut interagir avec eux.
Avec le pisteur que vous êtes, Baptiste Morisot, et la panthère des neiges aura-t-elle lieu ? Réponse dans un court instant sur RTL et Curieux.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
On vous emmène sur la piste animale dans la curiosité. C'est aussi le titre du livre de notre invité publié aux éditions Actes Sud, l'écrivain et pisteur Baptiste Morisot. Pister, est-ce qu'on peut dire que c'est vieux comme l'humanité, Baptiste Morisot ?
On peut le dire, et même on est voué à penser, en suivant l'anthropologue Louis Liebenberg, que c'est peut-être une pratique qui est à l'origine de l'intelligence humaine, ou en tout cas d'une partie de l'intelligence humaine.
Parce qu'on échangeait des informations entre Homo sapiens, c'est ça ?
Parce que donc ça fait à peu près 2 millions d'années qu'on piste, et que pour pister, vous êtes obligé d'abord d'apprendre à deviner, à interpréter des traces, des indices, et ensuite, en effet, à échanger collectivement pour déterminer la bonne interprétation de la situation. Donc il y a cette idée que, voilà, si vous voulez, c'est un peu l'origine du dialogue, du débat argumenté et potentiellement du raisonnement.
C'est-à-dire ceux des homo, si je vous comprends bien, ceux des homo sapiens qui avaient le plus de capacité à pister et à échanger les informations avec leurs congénères sur ces pistes, ce sont ceux qui ont survécu, en fait.
Qui se sont le mieux reproduits.
C'est ça, voilà,
pour dire
l'évolution.
Mais vous voyez qu'on est des singes sans fourrure, on a la peau nue, et la peau nue vient aussi probablement de la course à l'endurance qui consistait à pister les animaux pendant très longtemps pour y accéder. Donc, si ça a pu produire un effet aussi spectaculaire que de nous transformer en singes nus, il n'y a pas de raison que ça n'ait pas aussi transformé nos manières de penser.
Mais oui.
Baptiste Morisot, on était avec vous au Kirghizistan, dans la réserve de Narine, sur le territoire des panthères des neiges. Sait-on combien de panthères y vivent aujourd'hui ?
Moi, je ne sais pas. Probablement que des biologistes seraient plus compétents que moi sur la question.
Une poignée, quoi. On
ne sait pas si c'est, ouais,
c'est pas 1000 panthères des neiges.
Non. Je dirais au pire une dizaine, au plus une dizaine.
Vous nous avez décrit tout à l'heure des scènes de cohabitation. Je crois que c'était dans le parc de Yellowstone, ouais, entre les ours, les coyotes. Est-ce qu'on peut évoquer la même chose là dans ce territoire du Kirghizistan entre les panthères des neiges et peut-être d'autres animaux, ouais, sauvages, d'autres prédateurs?
Oui. Ce qui est fascinant au Kirghizistan, c'est justement le côté milieu extrême. Donc on est en très haute altitude. Il pleut. Les changements de météorologiques sont spectaculaires. Il fait froid. Et ça a l'air parfaitement sauvage pour nous, ça a l'air d'être un désert, mais dès qu'on réapprend à lire, dès qu'on arrive à se rendre sensible à la manière dont les autres vivants font territoire, on se rend compte que c'est parfaitement habité de partout.
Et donc, par exemple,
ce qui est fascinant, c'est que les panthères vivent sur les crêtes et on peut suivre leur chemin sur les crêtes, ouais, parce qu'elles sont au-dessus, notamment des bouquetins. Les bouquetins, eux, vivent en dessous, on voit leurs sentiers, on voit les endroits où ils couchent, en fait, eux, ils sont dans les verticales rocheuses. Mmh. Et encore en dessous des bouquetins, on voit, par exemple, les marquages des loups. Et les territoires se structurent entre eux, s'organisent.
Ça veut dire que les loups et les panthères s'évitent, plutôt, quand même ?
Ça veut dire que, non, les loups sont des animaux qui sont un peu compliqués à vivre. Et pour tout le monde, notamment, c'est des animaux assez opportunistes qui vont partout et qui sont compliqués
pour
les
panthères. Des voisins envahissants, quoi. Ouais, c'est un peu comme on peut avoir dans un immeuble.
C'est des voisins qui sont très territoriaux, qui n'ont pas de scrupules à aller signifier aux autres leur présence. Mais oui, ils sont quand même moins massivement sur les crêtes. C'est vraiment les panthères qui vivent sur les crêtes. Les loups passent sur les crêtes, ils marquent, ils mettent des drapeaux, mais ils habitent plutôt en bas.
Notre journaliste Caroline Dang vient de me passer une information. Selon WWF, entre 4000 et 6500 panthères des neiges encore dans le monde.
Donc, voilà, ouais, mais dans la réserve de Narine, il y en a beaucoup moins.
Moins. D'ailleurs, c'est une rencontre quasiment impossible à faire. Vous dites, il y a une poignée de panthères des neiges. Est-ce que vous avez réussi à croiser le regard d'une panthère des neiges, non, comme vous avez pu le faire avec un loup?
Absolument pas. Non, on n'a pas croisé de panthère des neiges.
Vous avez photographié, en revanche?
Oui, parce que ce qui est intéressant dans le pistage, c'est qu'à un moment, suivre l'animal assez longtemps dans ses traces, ça devient presque plus intéressant, ça crée une relation presque plus intime à lui que de le voir une seconde par hasard. Mmh. Parce qu'on essaie de penser comme il pense, on essaie de voir le paysage par ses yeux. Et ce que ça nous permet de faire, parce que c'est ça la fonction, c'est de poser un piège photographique à un endroit où on est sûr qu'il va passer. C'est comme si je mettais un piège photographique entre le pas de votre porte et votre boîte aux lettres. Et donc là, bien évidemment, quand on est rentré quelques mois après, les rangers sont allés relever les pièges photos et on avait des photos magnifiques de panthères, on a pu les identifier.
Et quand vous avez pisté ces panthères, est-ce que ça a changé quelque chose en vous, profondément ?
En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résonances philosophiques de ces expériences. Parce qu'en elles-mêmes, pour moi, elles sont puissantes, mais c'est comment elles transforment nos relations au vivant qui m'intéresse. Et là, de fait, dans cette histoire avec la panthère, c'est ce que j'écris dans le livre, j'ai pris conscience que certaines des vertus qu'on attribuait aux humains comme étant le propre de l'homme, comme la patience par exemple, la patience avec laquelle on attendait la panthère, on espérait la panthère, en fait, c'était une vertu qu'on héritait en parallèle de l'évolution. Et c'est pour ça que j'appelle ça la patience de la panthère. C'est la même patience qui est la nôtre et qui est celle des grands prédateurs.
Merci beaucoup. Sur la piste animale, c'est le titre de votre livre, Baptiste Morisot, avec une préface signée Vinciane Després qui est publiée chez Actes Sud. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.